France Info.
Et c'est un invité exceptionnel qui nous a rejoint cet après-midi dans le studio de France Info, le navigateur Thomas Coville. Bonjour.
Bonjour.
Une semaine après être arrivé deuxième de cette course en solitaire un peu folle, l'Arkea Ultimate Challenge, vous venez répondre en personne aux questions de France Info Junior. Ce sont des CM1 de l'école Louise Michel à Vigneux-sur-Seine. Thomas Coville, vous avez passé 53 jours, 1h, 12 minutes et 40 secondes. Tout seul, en mer, à bord d'un maxi trimaran, on peut dire qu'il vole quasiment au-dessus de la mer. D'abord, juste une semaine après votre arrivée, comment vous allez ?
Ça va, en fait, je vais être honnête, j'essaye de réattirer le plus doucement possible. J'essaye de surfer sur le fait d'être encore appuyé un peu là-bas, vraiment ici. Et j'ai été pris par l'émotion de l'arrivée et j'ai pas trop envie de la quitter.
Alors, on commence avec cette première question de Soukaina.
Est-ce que quand vous avez appris qu'il y a déjà quelqu'un qui a gagné, vous étiez en colère ?
C'était Charles Caudrelier qui est arrivé 2 jours avant vous à Brest.
Ah, j'étais pas en colère, non. En fait, c'était la première fois qu'on faisait une course autour du monde. Souvent, j'ai fait des records. Et les records, j'étais moi-même contre le temps pour être l'homme le plus rapide autour de la planète. J'avais réussi ça en faisant 49 jours, 3 heures. Et j'avais trouvé ça beaucoup plus dur de me battre contre moi et le temps plutôt que d'avoir Charles qui a gagné. Mais je me suis beaucoup battu contre Armel Lecléache, où on a été vraiment pas très loin l'un de l'autre. Et en fait, l'adversaire m'a aidé à pas me détester, m'a aidé au contraire à comprendre qu'il pouvait me valoriser et que, comme je respecte énormément Charles, Armel et les autres aussi, mais c'est les plus proches.
Les autres skippers.
Me battre contre des garçons comme ça, que tu respectes, qui sont quasiment des amis, des copains. J'avais fait des tours du monde avec Charles, mais non, j'étais pas du tout en colère.
Vous saviez déjà que vous étiez deuxième ?
Oui, et il avait fait un écart avec nous qui n'était pas comblable, puisque j'avais cassé un petit peu trop tôt en Atlantique Sud. Finalement, ce qui se passe quand tu fais une course comme ça, il n'y a finalement que nous qui comprendrons vraiment ce qu'on a connu et rencontré. Et ça crée une intimité entre nous qui n'est pas du domaine de l'agressivité, qui est plutôt de la complicité.
Rita, à toi.
Pour survivre à tous ces mois de bateau, il faut bien de la nourriture. Où vous stockez toute cette nourriture dans le bateau ?
Ah oui, c'est sûr. C'est même une logistique. Il y a de la nourriture stockée à bord. Il faut avoir prévu combien de temps tu vas rester. Et on avait prévu de faire plus rapide. On avait prévu de faire 45 jours, on avait emmené 48 jours de nourriture, donc la faim était un petit peu tendue. Et en fait, je suis tellement anxieux souvent à bord que j'ai du mal à mâcher, et donc je ne mange pas autant qu'il ne le faudrait.
Et vous mangez quoi ?
Et on mange du lyophilisé. J'ai plutôt travaillé sur ce que j'aimais manger, c'est-à-dire des risottos, des parmentiers, des choses qui ne me demandaient pas trop de mâcher. Mais j'ai retravaillé sur des recettes que j'ai travaillées moi-même avec un chef pour que ça me fasse plaisir à chaque fois que je mange.
Laura, à toi.
Est-ce que s'il y a le bateau qui a un problème, est-ce qu'il y a tout le temps des gens autour pour aider ?
En fait, oui, il n'y a pas des gens autour. Ils sont très, 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 très loin. Par contre, je suis en communication avec eux. Avec les télécoms, aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir une communication quasi permanente. On a quelques trous autour de l'Antarctique, mais j'ai une anecdote à te raconter là-dessus. Il m'est arrivé une avarie où le foil qui me permet de voler s'était cassé en fait. Et donc j'étais le long du flotteur, proche de l'abîme, hein, parce que quand il fait nuit, la mer est juste vraiment... Si tu fais un faux pas, tu tombes, c'est fini quoi.
Vous n'êtes jamais accroché ?
Je suis accroché, mais... Et là j'étais en communication avec Jean-Mathieu, qui est un des ingénieurs, et je parlais avec lui, et à un moment donné, la communication coupe. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, en fait il ne sait plus si je suis encore à bord ou pas. Et il ne sait pas s'il faut prévenir les autres. Et au bout de 30 minutes, la communication reprend. Et j'ai Jean-Mathieu qui est en larmes. Parce qu'il est au bout du fil. Et il était persuadé que j'étais passé par-dessus bord. Et du coup, c'est cette relation très intime. En fait, c'est un sport d'équipe. On est tout seul sur le bateau, on a l'impression que... Mais en fait, non. Et j'adore cette relation.
Léa, à toi.
Moi, je me demandais comment on peut faire pour pas avoir le mal de mer après plusieurs mois de bateau.
Ah, le mal de mer. En fait, j'ai cette chance, j'ai jamais eu le mal de mer.
Jamais ?
Non. Alors que quelquefois, j'ai respiré des trucs comme le gasoil, où ça bouge beaucoup, où il y a des mouvements qui sont quelquefois un peu parasites. Je peux même mettre des lunettes et tout. J'ai pas le mal de mer. Et souvent, c'est une relation entre l'ouïe et la vue. C'est pour ça que souvent on dit aux gens qui ont mal de mer, regarde l'horizon. Et en fait, pour moi, c'est plus Louis qui marche bien, parce que je suis tout le temps à l'écoute du bateau. Chaque bruit, chaque son, chaque grincement veut dire quelque chose pour moi. Je le relis quelquefois même à une couleur, à une forme, à un chiffre, forcément à une vitesse. On appelle ça un peu aussi la kinesthésie, qui permet effectivement de relier les choses les uns aux autres. Et c'est ce qui, quelque part, m'empêche d'avoir le mal de mer.
Paul.
Est-ce que vous avez déjà eu peur qu'un requin ou une baleine sorte du bateau et vous écrase?
Non, j'ai jamais eu.
Mais vous en voyez.
Ah ouais, par contre, ce que j'ai peur tout le temps, c'est qu'elle soit sur mon chemin et que je la percute. Et là, qui dit toucher une baleine et un requin, on lui fait mal. Et on avait fait pour cette course des zones interdites où on savait qu'elles se reproduisent, où elles habitent, où elles sont quelquefois en transhumance. Et on s'était interdit d'aller dans leur... On avait un peu sanctuarisé leurs endroits. Ce qui était la première fois qu'on mettait ça en contrainte pour nous. Et peut-être que c'est pour ça que j'en ai pas rencontré et percuté. J'ai vu plein de dauphins. Ce qu'on voit le plus, c'est des oiseaux. Et je me souviens d'un de mes premiers tours du monde, j'ai un albatros qui m'avait suivi pendant 11 jours. Et là, j'en ai eu un pendant 3 jours. Et c'est une vraie complicité. C'est devenu effectivement un peu l'ami du moment, quoi.
Bah justement, une dernière question avec Abby.
Est-ce que votre famille vous manque ?
Ah oui, ouais, c'est...
Ouais, vous avez les albatros, mais bon.
Ouais, non, mais c'est clair. C'est un métier où on choisit de partir. J'ai Jeanne et Elliot, mes deux enfants. Et en fait, on gère et on aime les moments de retrouvailles comme on a vécu là. Parce que quelquefois, pour s'aimer vraiment, il faut se manquer ou quelquefois partir pour se retrouver.
Je rappelle que vous avez fait 9 tours du monde, 5 en solitaire, donc il faut s'habituer aussi.
Ouais, c'est vrai que je m'en suis voulu longtemps et souvent, j'ai arrêté de culpabiliser là-dessus, parce qu'on en a parlé ensemble, de leur avoir imposé d'être un papa qui partait souvent et qui partait longtemps et qui s'engageait avec cette épée de Damoclès qui pouvait nous parvenir.
Eh bien, merci beaucoup Thomas Coville d'avoir répondu aux élèves de France Info Junior cet après-midi sur France Info. Je rappelle donc que vous êtes arrivé deuxième de cette grande course en solitaire, l'Arkea Ultimate Challenge, que ça vous a pris un peu plus de 53 jours quand même. Merci aussi à Estelle Faure et à Marie Mougin.